On commence donc notre rendez-vous géolocalisé chez nous à Bruxelles. Entre 30 et 35 000 personnes ont défilé pour dénoncer plusieurs mesures actuellement en débat au niveau fédéral en matière de pension, de chômage et de protection sociale au sens large. La défense des services publics, de la concertation sociale et de la démocratie était aussi au cœur des discours de nombreux manifestants.
Parmi ces manifestants, des participants qu'on voit d'habitude assez peu, le personnel des universités et plus particulièrement les corps enseignants et scientifiques, ils et elle, surtout, était bien là, en front commun universitaire, qui plus est, les 5 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles représentées. Suffisamment rare pour le souligner, Imad, pourquoi est-ce que les UNIF sont dans la rue ?
Pour plein de bonnes raisons. Elles ont décidé de marcher, comme j'ai marché d'ailleurs, parce que 7,5 km d'après ma montre. C'est la 9e manifestation depuis le début de l'année, et les 30 000 personnes présentes ce matin montrent qu'il n'y a pas nécessairement d'essoufflement du mouvement, mais c'est toujours bien d'un peu modifier l'une ou l'autre chose pour ne pas lasser. Ainsi, cette fois-ci, par exemple, les discours étaient au début, avec écran géant sur la petite ceinture. Ça a mis de l'ambiance. Et puis c'est vrai, la présence des universités, c'est pour ainsi dire inédit. Les 5 UNIF ont toutes envoyé des représentants. Alors, il ne s'agit pas de recteurs et de rectrice, mais le message est clair. L'action est partie de l'université de Liège et elle a fait tache d'huile. Écoutez, Louis Carré, il est enseignant-chercheur à l'université de Namur, représentant du personnel scientifique et académique. Des propos recueillis par Baptiste Tupin et Jonas Verheyken.
Non seulement c'est toutes les universités de Belgique francophone qui se mobilisent, mais aussi l'ensemble des corps des universités. Donc c'est non seulement le personnel académique, scientifique, technique, administratif, et aussi les corps étudiants. Donc c'est effectivement assez inédit récemment. Et ce qui explique cette mobilisation, c'est simplement les menaces qui pèsent sur la vie universitaire en général, en termes de définancement et le problème que ça suscitera en termes d'encadrement des étudiants et pour la recherche au sein des universités.
Voilà, c'est un assez bon résumé des raisons pour lesquelles les UNIF sont dans la rue. Il y a aussi une mesure précise, un peu technique, qui inquiète énormément le monde académique. C'est la fin de ce qu'on appelle l'exonération du précompte chercheur. En gros, avec cette simple mesure, les budgets des universités vont être rabotés de 7%, ce qui est énorme. C'est ce que dénonce Ingrid Falk, chercheuse qualifiée FNRS à l'UC Louvain.
C'est très problématique pour les universités, pour le FNRS, puisque cette exonération permet de financer des recherches fondamentales, dans le domaine de la recherche fondamentale, des projets de recherche, achat du matériel, etc. Et donc, si on doit subir ces réductions, c'est nos missions de recherche qui seront très largement entravées.
Donc le combat des universités, si je comprends bien, ne concerne pas seulement la pension des profs, parce que parfois on le résume comme ça.
Oui, tout à fait. Pas mal d'étudiants étaient d'ailleurs également de la partie ce mercredi, alors pour dénoncer leurs difficultés financières, le loyer des cotes, l'obligation pour certains de travailler, pour payer leurs études. Les jeunes étaient aussi là pour soutenir leurs UNIF, parce que globalement, les universités constatent une détérioration structurelle des conditions de vie universitaires pour tout le monde. Chloé Deligne est chercheuse FNRS à l'ULB et elle est déléguée syndicale CGSP.
On s'inscrit dans un mouvement très long qui remonte, on pourrait dire, à la fin des années 90, où ça fait 30 ans, en fait, que mesure après mesure, on est en train de détricoter, en fait, la qualité et surtout l'accompagnement des étudiants. Depuis 10 ans, la massification de l'université, en particulier de l'ULB, c'est 20% d'étudiants en plus et moins de cadres. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne sait plus encadrer nos étudiants. Et qu'est-ce que ça fait une université qui ne sait plus encadrer ses étudiants ? Ben, c'est une université en souffrance, des étudiants en souffrance. Et c'est ça qu'on vient dénoncer aussi ici.
L'université est un service public comme un autre ou peut-être pas tout à fait comme un autre. Il a en tout cas le droit d'être entendu, défendu. C'est le message des UNIF ce mercredi. Un message adressé au gouvernement fédéral et aussi au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Merci, madame. Les 32 dirigeants des États membres de l'OTAN se sont retrouvés à La Haye aujourd'hui.
Un sommet de l'Alliance Atlantique qui a scellé dans le marbre l'engagement d'investir 5% de leur richesse dans la défense. Olivier Henrion, les États européens vont devoir mettre la main au portefeuille. Ça va être très clairement douloureux.
Oui, douloureux, difficile et peut-être même irréaliste, mais il fallait trouver un accord pour convaincre Donald Trump de venir à La Haye. Un accord pour satisfaire son ego et ses menaces répétées de se désengager de l'Alliance Atlantique. Ce sera donc le chiffre magique de 5% du PIB investi dans la défense d'ici 2035. Une vieille demande du président américain pour consolider les forces armées et moderniser leur arsenal. Longtemps jugé irréaliste, voire fantaisiste, tous les États membres de l'OTAN ont fini par s'y rallier. Ils ont signé bon gré mal gré, cornaqué par le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte. C'est lui qui a réussi à leur faire avaler la pilule, même si, pour la rendre moins amère, il a dû faire preuve d'imagination. en coupant la poire en deux. Ce sera 3,5% pour les dépenses de défense stricto sensu et 1,5% pour les dépenses liées aux infrastructures qui contribuent à la défense. Une sorte de fourre-tout dans lequel les États peuvent inclure les dépenses pour la construction d'un pont qui permettra au matériel militaire de circuler, un hôpital, mais aussi la lutte contre les cyberattaques ou la préparation aux crises. La liste est longue.
Alors Olivier, ils ont tous signé, mais tous les pays, les États membres de l'OTAN ne sont pas convaincus.
Mais difficile de croire que les Européens vont d'un coup de baguette magique se mettre à dépenser 5% de leur richesse dans la défense. Les contraintes budgétaires sont énormes. Ils ont déjà eu pas mal de difficultés à atteindre l'objectif de 2% des dépenses. Certains, comme la Belgique, l'Italie, la Slovénie ou l'Espagne, n'y sont toujours pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a jeté un premier pavé dans la mare dimanche soir, en affirmant que son pays allait bénéficier d'une exception et qu'il ne respecterait pas cet engagement. Pour lui, 2,1% du PIB, c'est largement suffisant.
Pour le gouvernement espagnol, ça n'a aucun sens de s'engager à dépenser 5% de notre PIB en défense. Si on le faisait, ça nous obligerait à trahir nos engagements et à gaspiller des milliards d'euros. Et puis, paradoxalement, ça ne nous apportera pas plus de sécurité.
Le gouvernement espagnol a sorti la calculette. La facture s'élèverait à quelque 3 000 € par an et par espagnol. Imbuvable. Mais l'Espagne n'est pas la seule à traîner les pieds. Le premier ministre slovaque a rapidement pris la roue de son homologue espagnol. Lui aussi estime qu'il n'a pas besoin de s'aligner sur cet objectif de 5% des dépenses. Et lui aussi se réserve le droit de décider du rythme pour augmenter son budget militaire. Et puis, plus discrète, la Belgique aussi compte obtenir un maximum de flexibilité. Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, l'a rappelé sur notre antenne, c'était lundi matin.
Ça veut dire que cet objectif de 5%, c'est une sorte de mirage.
Alors disons un mélange de mirage, tous les États n'y arriveront pas, et de flagornerie. Il permet à Donald Trump de repartir du sommet de l'OTAN avec une belle victoire politique. Il permet aussi de rassurer les Européens qui craignent un désengagement américain de l'OTAN. Mais c'est surtout un rappel à tous les États européens qu'ils doivent prendre en main leur défense alors que la Russie continue sa guerre aux frontières de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, elle aussi présente à La Haye aujourd'hui, ne fait pas de mystère.
Nous savons que la Russie sera en mesure de tester nos engagements mutuels en matière de défense au cours des 5 prochaines années.
L'année dernière, la Russie a dépensé plus pour sa défense que l'ensemble des États de l'Union européenne.
Merci Olivier Henrion.
Mieux comprendre l'Europe avec Euronet Plus, le premier réseau d'information européenne.
Dernier arrêt de ce carrefour en Irlande du Nord.
C'est un point noir en Europe pour la liberté de la presse. Les journalistes y sont régulièrement menacés de mort. Bonsoir Clémence Pénard. Selon un rapport accablant d'Amnesty International, l'Irlande du Nord est le territoire le plus dangereux du Royaume-Uni pour exercer le métier de journaliste.
Oui, une situation qui ravive le souvenir des heures sombres, des troubles. Le conflit qui avait fait plus de 3500 morts dans la région, on le rappelle, a certes pris fin en 1998, mais ses cicatrices restent profondément ancrées dans la société nord-irlandaise. Et sur le terrain, de nombreux paramilitaires sont toujours actifs, des groupes armés, historiquement affiliés soit au camp républicain, soit au camp loyaliste, et qui sont à l'origine de ces intimidations, menaces et agressions visant les journalistes. Richard Sullivan est journaliste au Sunday World, spécialisé dans les affaires criminelles. Il a reçu sa première menace de mort une semaine après son arrivée dans la rédaction et pourtant, d'après lui, le climat s'est depuis bien détérioré.
Cela fait maintenant 27 ans que j'y travaille, donc cela fait presque 3 décennies que ça dure. Il y a quelques années, j'ai reçu une enveloppe contenant 6 balles, une carte de condoléances et une photo de moi, avec une cible dessinée sur mon visage. Cela venait d'un groupe paramilitaire loyaliste, l'UVF. J'ai pas mal travaillé sur eux et exposé leurs activités, trafic de drogue, ce genre de choses. Donc évidemment, ils n'étaient pas très contents.
Clémence, il y a donc un climat de peur que beaucoup pensaient avoir relégué aux oubliettes depuis l'accord de paix de 1998.
Oui, paradoxalement, en Irlande du Nord, le niveau de menace envers les journalistes serait plus fort aujourd'hui. Pour Richard Sullivan, ces groupes paramilitaires sont désormais de simples criminels, des trafiquants de drogue, surtout qui n'ont plus ni la structure ni les motivations politiques d'autrefois et sont par conséquent imprévisibles. D'autres journalistes en Irlande du Nord sont issus d'une génération qui n'a pas connu les troubles. C'est le cas de Kevin Scott, jeune photographe pour le Belfast Telegraph. Il a déjà été agressé en pleine rue par des hommes masqués. Sa voiture a été détruite à coups de battes cloutées et il en est convaincu, un jour quelqu'un finira par le tuer, mais pas question d'abandonner le métier.
Je vais te dire, je vais mourir un jour. Si j'ai un peu de contrôle là-dessus, tant mieux, sinon tant pis. Ici, c'est un endroit gangréné par les paramilitaires. Les communautés sont prises en otage par ces gens qui se prétendent être leurs leaders. La seule façon de changer les choses, c'est de tenir tête. Et ça ne concerne pas que les journalistes, mais aussi les citoyens ordinaires. J'espère qu'un jour, on se débarrassera de ce genre de personnes.
Pourtant, tenir tête reste bel et bien dangereux en Irlande du Nord, jusqu'à coûter la vie à certains.
Absolument. La plus récente victime, Lyra McKee, jeune journaliste de 29 ans, a été tuée en 2019, touchée d'une balle à la tête alors qu'elle couvrait une émeute à Derry. Un collègue de Richard Sullivan, Martin O'Hagan, lui, a été abattu en 2001 alors qu'il enquêtait sur un groupe paramilitaire. Or, malgré les nombreuses révélations du Sunday World sur l'identité des responsables de ce meurtre, personne n'a jamais été traduit en justice. Kevin Cooper est membre du Syndicat national des journalistes.
La meilleure protection pour les journalistes en Irlande du Nord, c'est ce que nous demandons encore et encore, de véritables enquêtes sur les crimes commis contre les journalistes et qu'il y ait des poursuites. Tant que les gens penseront qu'ils peuvent menacer, agresser ou même tuer des journalistes en toute impunité, ces actes continueront.
Et le rapport d'Amnesty International a recensé depuis 2019 plus de 70 agressions contre des journalistes. Aucune n'a donné lieu à des poursuites.
La complexité donc d'exercer son métier de journaliste depuis Belfast avec Clémence Pénard.